Bonjour, bienvenue dans ce premier hors-série de Pixel Bento. Je suis Thierry et nous allons bientôt écouter l'interview de Eduardo Fornieras, j'espère ne pas écorcher son nom de famille, donc qui est le développeur d'origine espagnole de Narita Boy. Narita Boy, un jeu d'action-aventure sorti sur toutes les consoles, également sur PC, le 30 mars de cette année, 2021. Et donc, nous avons eu le plaisir de faire l'interview d'Eduardo, qui nous a parlé de sa création. Il a quasiment tout fait sur le jeu, entre l'Espagne et le Japon. Donc, le jeu regorge littéralement de références au Japon. Et pourquoi ce numéro hors-série un peu spécial? En fait, c'est pour des raisons tout à fait techniques. L'interview, malheureusement, a souffert. Elle était enregistrée à distance. Et il semble que le micro d'Eduardo ait pas mal touché potentiellement la fermeture éclair d'un de ses vêtements et donc du coup ça claquait pendant toute l'interview. Cette interview était sauvée par Axel, notre ingé son, donc je le remercie. Et donc malgré tout son travail, évidemment la qualité est loin d'être parfaite, donc désolé pour ces problèmes techniques, mais malgré tout j'espère que vous allez pouvoir apprécier toutes les petites anecdotes que va nous partager Eduardo sur le magnifique Narita Boy.
Bonjour Eduardo.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de participer à cette émission et surtout merci de la faire en français.
Non, merci. Et merci pour me laisser faire l'interview en français parce que ça fait déjà un petit moment que je ne parlais pas et ça me fait du bien aussi.
Génial, ça a été une vraie surprise d'apprendre que tu parlais français. Donc j'étais très heureux, puisque pour moi c'était juste l'opportunité de pouvoir te poser plein de questions sur Narita Boy et on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a mené au jeu vidéo ? Quel était ton premier contact avec le jeu vidéo ?
Donc, j'ai commencé, dès que j'étais tout petit, j'ai eu ma NES.
Oui.
Et du coup, j'ai commencé à lire et après, j'ai pas eu plus de console. Et j'ai sauté au PC. Et ouais. J'ai pas mal joué pendant quelques années. Du coup, chez mes copains, je jouais à la Super Nintendo et tout. Bref, j'ai toujours aimé les jeux vidéo. Et surtout aussi, je jouais beaucoup en français, comment on dit, les arcades.
Bien sûr, les salles d'arcade.
Les salles d'arcade, j'ai pas mal joué là-bas. Mmh. Et oui, ça fait un besoin de bosser sur ça quand j'ai été plus âgé.
Quand est-ce qu'est venue tes premières intentions de travailler dans le jeu vidéo et tu as commencé en t'imaginant comment ? Quelle position ? Plutôt en tant que graphiste tout de suite ou alors programmeur ou...
C'est curieux parce que j'ai commencé au Japon, ça fait quelques années. J'ai commencé à bosser dans une boîte qui s'appelle... Elle existe, elle s'appelle Wiscore, ici à Tokyo. Peut-être tu connais des gens qui sont passés par là-bas parce qu'il y avait pas mal de Français, du coup.
J'en connais plusieurs.
D'accord. Et du coup, ils m'ont embauché dans un premier moment pour faire comme des pitchs pour des Kickstarter et tout, et créer des univers et tout ça. Mmh. Et après ça, j'ai sauté dans une boîte ici à Tokyo, elle s'appelle Friends and Foes. Mmh. Et je rentrais dans la part du visuel, du développement visuel, ramener, comme je te disais, des idées, créer des persos et tout ça. Et ça a été la façon d'entrer dans l'industrie ici au Japon et plus du côté Kaikokujin, quoi. J'ai pas vraiment bossé sur des boîtes japonaises.
Oui.
Et quand j'étais à Friends and Foes, je me suis dit... Moi, toujours, j'ai aimé la bande dessinée. Expliquer des histoires en écrivant ou avec des images. Et je me suis dit, attends, peut-être il faudrait essayer maintenant avant que ça soit plus tard. Et ça a été le coup de foudre pour commencer à faire mes propres jeux vidéo.
D'accord. Donc du coup, toi, quand tu t'es lancé dans le jeu vidéo, tu étais avant tout sur la partie créative, donc la création d'univers, la création des personnages, les règles d'un univers... Ce genre de choses. Est-ce que tu programmes de ton côté un petit peu ? Est-ce que tu dessinais déjà sur ordinateur ou pas trop ?
Non. Voilà, j'aime pas du tout la programmation. Mon cerveau, il compile pas ensemble du tout. Enfin, je pourrais pas. J'ai essayé. J'aime le game design, mais toucher du code, je pourrais pas. Mon cerveau, il est pas tellement logique.
Ok. Et sur donc du coup pour le dessin, est-ce que tu dessines plutôt sur papier ou est-ce que tu as dessiné également sur ordinateur ?
Moi, j'ai trois moyens. Un pour canaliser mes idées. J'utilise les mots, donc mon portable, mon bloc de notes. Je ne sais pas si c'est en français comme ça. On a un bloc de notes.
Bloc-notes.
Bon, j'écris beaucoup du brainstorming, donc des mots, des idées, des émotions, tout. Ça passe par là. Et après, si j'ai une idée immédiate qu'il faut que je dessine vite, donc je prends un papier. J'ai toujours plein de papiers sur moi. Et après l'ordi, c'est déjà pour le pas suivant, que c'est commencé à donner une forme, des couleurs et tout ça. Mais sinon, ouais, ça c'est à peu près le procès créatif que je suis.
D'accord. Alors, tu parlais tout à l'heure de WizCorp, donc qui est à Tokyo, au Japon. Oui. Qu'est-ce qui t'a mené donc au Japon et du coup, quel est ton lien et ton rapport avec ce pays? Parce que bon, les influences japonaises dans Narita Boy, c'est ça fourmille. Il y en a beaucoup.
Oui. En fait, ma première influence, c'est quand j'ai atterri la première fois. J'ai eu rendez-vous avec ma femme à Kyoto, mais elle habitait à Tokyo. Mais on voulait passer un petit séjour à Kyoto. Et je me souviens de rentrer dans un temple Shinto au beau milieu de Kyoto. Et vraiment, je me sentais abasourdi du coup dans la beauté et les odeurs. Et c'était la nuit. Et j'ai vraiment kiffé. Mais mon rapport avec le Japon, c'est un petit peu le hasard parce que j'ai tombé amoureux d'une japonaise. Si elle aurait été, je sais pas, turque, maintenant, j'aurais fait un jeu sur un turco boy ou un truc comme ça. Mais ouais, c'est le hasard. Mais du coup, moi, j'aimais beaucoup la littérature japonaise, un petit peu, tu vois, les trucs Murakami, et Soseki, un petit peu comme ça. J'aimais le wabi-sabi aussi, et les mangas un petit peu. Le Naruto et tout ça, pas tellement, mais quelques auteurs. Mm. Et jamais j'avais songé à que mon futur aurait été lié de quelque façon avec le Japon. Je m'attendais pas. Et du coup, oui, par la force d'être avec une japonaise et de passer du temps au Japon, donc tu tombes amoureux. Et c'est à peu près mon histoire, mon rapport avec le Japon, c'est ça.
Narita Boy, tu l'as commencé au Japon ou tu l'as commencé lorsque tu es reparti en Espagne, à Barcelone?
J'ai commencé au Japon. Tout le thème de la créativité, l'univers, qu'est-ce que je voulais expliquer, parce que c'est pas facile, du coup, ok, je vais faire mon petit jeu, mais pour moi, l'important, c'est l'histoire, et je voulais construire à partir de l'histoire, donc ça m'a pris mon temps, et surtout, le temps de me balader par plein de lieux, ça m'a donné les idées et le besoin pour expliquer cette histoire.
Je comprends. Quels sont les lieux qui t'ont plus inspiré, du coup? Quels sont les lieux que tu lis le plus avec Narita Boy, ici au Japon?
Du coup, le Keiba, c'est la course de chevaux, on dit.
Oui, oui.
Ce qui a dynamisé le plus l'histoire, c'est le fait que j'ai eu un petit gamin, avec un half, qu'on dit ici au Japon, moitié japonais, moitié espagnol. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup pour faire l'histoire, et après, je voulais mélanger tout ça. Donc, je kiffais beaucoup le concept de mélanger deux cultures différentes dans un corps, c'était le détonateur.
D'accord, ça c'est très intéressant. Donc du coup, tu as eu ton premier enfant avant le début du développement?
Oui, un petit peu avant.
Ok, un petit peu avant. Qu'est-ce qui t'a poussé à retourner à Barcelone et à faire le jeu à Barcelone? Est-ce que c'était des raisons personnelles ou c'est des raisons juste de facilité pour créer le jeu lui-même?
Donc, c'était un petit peu tout. Moi, j'en avais un petit peu ras-le-bol du Japon aussi. Et puis, comme je n'avais pas... J'étais en train de bosser pour moi. Je pensais que peut-être c'était temps de retourner en Espagne. Quand j'ai retourné en Espagne, en fait, je suis allé dans un petit village où ma mère est née. Donc, on a une petite maison familiale. Et du coup, je n'avais pas dépensé un loyer et tout. Et c'était assez... Et très convivial, tu vois, le village et tout, et c'était très bien. Et oui, un petit peu changer d'air pour un nouveau projet, tu vois, c'était le moment de faire un petit détour, et voilà, ça s'est passé comme ça.
Je comprends. Du coup, en Espagne, est-ce que tu t'es rapidement entouré d'autres personnes pour t'aider sur le jeu? Comment s'est passé un petit peu la formation de l'équipe et à quel point tu étais seul? Parce que le jeu, tu le tiens sur tes épaules, mais tu t'es fait aider pour la programmation, par exemple, et pour d'autres aspects du jeu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce travail?
Oui, en fait, j'ai commencé tout seul avec le Kickstarter et avec ma femme qui m'a aidé, mon frère. Il a fait les grandes finances à Paris. Il est musicien, mais aussi il a un background de finance et c'était assez convenient. Et du coup, oui, j'ai commencé tout seul, bon, avec eux. Et après, une fois on a eu l'argent pour pouvoir commencer, on a formé une petite team, mais la team, elle n'a pas bien marché, et en 2019, en octobre, septembre, on a reformulé l'équipe, mais on avait pas mal de choses déjà, des tools et tout sur Unity. C'est-à-dire, on avait besoin d'accélérer le rythme Et donc, on a pris trois programmeurs. Et voilà, on a foncé. Et c'est une équipe super solide. Mais oui, au commencement, c'était moi tout seul.
OK. En jouant à Narita Boy, moi, j'ai pensé beaucoup donc, aux jeux qu'on appelait les Cinematic Adventure Games à l'époque, qui étaient sortis sur, en particulier sur Amiga. Donc, des jeux comme Prince of Persia, comme Another World, ce genre de jeu. Est-ce que toi, tu as joué à ces jeux-là?
Oui.
Est-ce que ce genre te plaisait à l'époque, te plaît toujours?
Voilà, oui, oui. Une des inspirations majeures, c'est Another World. J'étais très heureux parce que le gars sur Twitter, un jour, il a dit « Mais c'est beau, ça, Narita Boy et tout. » Et vraiment, c'était un clin d'œil très beau parce que c'est mon influence. J'avoue que j'ai pas pu le finir, c'est super dur. C'est un jeu qu'on te tue et à la fin, j'ai plus de patience.
C'est vrai.
Mais l'imaginaire, tu vois, l'intro, la cinématique du commencement, comment ils bougent les persos et l'univers, la palette de couleurs, c'est comme un tout. Et moi aussi, je voulais reproduire cette sensation que le jeu m'a transmis, vraiment.
En jouant à Narita Boy, il y a quelque chose qui m'a énormément marqué, c'est les souvenirs liés au créateur. Donc ce sont ces souvenirs, ce sont des petites séquences de jeu où tu vas visiter un petit peu la vie du créateur, qui est un personnage, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas spoiler un petit peu l'histoire du jeu. Mais en tout cas, ce créateur a perdu la mémoire, en quelque sorte. Et le joueur va venir, c'est sa mission dans le jeu, va venir débloquer ses souvenirs. Et en fait, en débloquant ses souvenirs, on va voir toute la vie de ce créateur depuis qu'il est tout petit jusqu'à sa vie d'adulte. Comment t'es venue cette idée des souvenirs? Et à quel point ces souvenirs sont attachés à des souvenirs, à des choses qui te sont personnelles?
Il y a un beau mix, c'est-à-dire il y a des trucs personnels, mais après les plus dramatiques, c'est pas tellement moi, c'est de la création. Il y a beaucoup de moi, en fait, le créateur du jeu. Moi, je suis le créateur du jeu aussi. Et beaucoup de gens qui me connaissent disent que moi, je suis le créateur, je me ressemble à lui. Donc, basiquement, c'est un jeu de miroir, tout le jeu. Et c'est vraiment méta-narrative à fond.
Oui.
Vraiment, vraiment. Donc, il y a beaucoup de moi. Mais du coup, il y a beaucoup d'inventions aussi pour expliquer
Bien
une
sûr.
Histoire. Je voulais pas faire mes mémoires pour mon premier jeu, ma biographie.
Il y a également quelque chose qui a... Évidemment, lorsque tu joues, lorsque tu vois le jeu, ne serait-ce que quelques minutes, immédiatement, tu as une référence qui te vient à l'esprit, c'est Tron.
Ouais.
À quel point Tron t'a marqué et à quel point tu as volontairement reproduit certaines choses liées à l'esthétique du film et liées également à l'histoire même du film, parce qu'on on retrouve un petit peu ça également avec l'histoire du créateur. Il y a des points communs qui sont là.
Oui, oui, oui.
Et donc,
oui, tout à fait.
Que représente Tron pour toi?
J'avoue que moi, je trouve que Tron, les deux films ne sont pas terribles, mais les idées, le premier, je l'ai vu quand j'étais petit, j'ai bien aimé, mais après, je l'ai revu, en fait, quand j'étais en train de faire Narita Boy, et je me suis dit, mais du coup, je trouvais qu'il y avait beaucoup de bonnes idées, tu vois, et même des gens pensent que Narita Boy aussi, ça pourrait être un meilleur jeu, mais il y a beaucoup de bonnes idées. Même on a eu des analyses comme ça. Donc, j'ai fait mon tremble de ce côté aussi.
Je comprends ce que tu veux dire.
Mais oui, je pense que l'esthétique du film est impressionnant.
Ouais.
Et le concept de rentrer dans un ordinateur. Mais j'aimais ce concept, mais j'aimais la façon dont Captain N, c'était une série d'animation de Nintendo, que c'était un mec qui se mettait dedans la télé aussi. J'ai mélangé un petit peu avec ça. Et après, j'ai mélangé le tout. Ça, c'est comme une recette de cuisine. Je mangeais le tout avec un petit peu de He-Man et de Ready Player One, le book. Et aussi, la vie de Steve Jobs. J'aime le gourou et j'aime beaucoup aussi les années 70, 80, aussi un petit peu la fin du hippie, mais les cultes religieux, Manson et tout ça. Donc, j'avais beaucoup d'envie de mettre tout ça dans ma recette. Je suis très fan de Top Chef France. Aujourd'hui, j'ai vu le chapitre de la semaine. Je suis vraiment fan. Et je suis vraiment fan des... Je dis ça parce que je suis fan de la cuisine créative, parce qu'en fait, ils utilisent des éléments que tout le monde connaît, mais c'est la façon dont tu les mélanges. Donc, moi, je sais un petit peu ça et c'est tout fait déjà. Mais c'est comment tu mélanges le tout pour essayer d'amener une nouvelle expérience.
Une saveur unique.
Voilà, c'est de la gourmandise.
C'est marrant que tu parles de Steve Jobs, parce qu'en effet, dans les souvenirs, tu as des références assez claires donc à ces personnages, et je me demandais si elles étaient volontaires ou involontaires, donc c'est, je comprends mieux.
Oui, oui.
Et en effet, j'étais surpris par l'apparition de ces références à un culte, etc. Et ce moment où le créateur se perd un petit peu et perd pied avec la réalité, mais également avec ses priorités dans la vie, c'est également un moment qui est touchant. Enfin, tous les souvenirs sont vraiment très, 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 comment dire, très réalistes et très également référencés. Donc c'est, il y a un peu du personnel et un petit peu du ah, j'ai déjà vu ça quelque part.
C'est un... Oui, parce que tu vois la construction, le symbole de Narita Boy, c'est Naka, c'est le milieu. Donc le milieu, c'est le balance, l'harmonie. Donc du coup, quand il y a un déséquilibre dans ta vie même, que t'es trop addict, je sais pas, à l'alcool, au boulot, tout ça, donc tu commences à virer vers un côté. Et c'est important de dans tout le jeu, l'harmonie des trois couleurs, c'est toujours le centre, non? Un truc beaucoup, très spirituel. Donc, il y a beaucoup de la spiritualité aussi. Et je suis pas une personne très spirituelle, mais seulement quand j'ai un besoin. Donc, j'y vais au temple, s'il te plaît, Kamisama, aide-moi. Mais je suis pas très spirituel, mais j'aime beaucoup, comme je te dis, les sectes, mais j'aime beaucoup les faux gourous. J'adore ça.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu également, donc, comme tu le disais tout à l'heure, Narita Boy, c'est avant tout un univers que tu as créé avec des envies, avec des choses qui te sont personnelles, avec des choses qui viennent de ta propre culture et de tes intérêts. Est-ce que tu as su très rapidement quel style de jeu tu voulais faire?
Vraiment, c'est une belle question parce que le truc qui me manquait le plus, c'était les mécaniques du jeu, le jeu. C'est-à-dire, moi, j'avais très clair l'histoire et moi, je voulais faire encore une chose beaucoup plus contemplative, beaucoup plus expérimentale. Et du coup, il y avait un hack and slash et tout. Il fallait trouver un équilibre dans tout ça. Mais j'avais très clair le truc du créateur, la relation du créateur avec son œuvre et après l'élu et ce qui va se trouver dedans. À peu près, je savais. Et le game design, c'est la première fois qu'on fait notre jeu. Donc,
c'est ton premier jeu.
Voilà, c'est mon premier jeu. Donc, tu te trouves dans plein
de questions.
Ouais, voilà, de questions que tu vas tomber dans beaucoup de pierres pour y répondre. Et ça, c'était la part la plus dure.
Le jeu a plusieurs composantes. Donc, tu as évidemment la partie exploration qui est très importante dans ces environnements absolument magnifiques. Et tu as également beaucoup de plateformes. Tu as beaucoup de combats et tu as du puzzle. Est-ce qu'il y a une partie du jeu qui était plus difficile à faire qu'une autre?
En fait, la partie la plus difficile, c'est de mélanger tout ça et que ça fonctionne. Tu vois, le mélange et itérer. Et après, il y a le syndrome d'aveugle, c'est-à-dire que c'est comme c'est ton jeu, il y a un moment si tu sais plus, tu te le connais, tout ça va. Et oui, j'avoue que c'est la part la plus difficile de voir si l'équilibre, la progression du jeu, la progression des combats fonctionne. Si c'est pas très difficile, si c'est pas trop facile, si les joueurs vont comprendre, c'est vraiment très très difficile. Et en fait, quand tu fais pas du tile set, en fait, j'ai dessiné tous les backgrounds un par un en essayant de pas répéter des éléments. Parce que moi, les tile sets, j'aime beaucoup jouer à des jeux tile set, mais j'arrive pas à me transporter dans cet univers parce que c'est clairement du tile set partout. Et donc, quand tu fais ça, à Team 17, on me l'a dit, t'as pris le chemin le plus dur.
Bien sûr.
Et du coup, oui, c'était super dur. Il faudrait mettre une flèche ici parce qu'ils doivent. Et quand c'est ton premier jeu, et vraiment, le scope, c'est toujours, il y a l'ambition de chacun. Tu veux faire ton meilleur jeu, le plus grand, le plus complexe. Et ça, c'est notre pire ennemi. Tu vois, donc du coup, la chose la plus difficile, c'est gérer les propres expectatives du jeu et savoir qu'on laisse tomber. Parce que les jeux, ils se finissent pas, on les laisse tomber. Et ça, c'est la partie la plus difficile.
J'ai beaucoup entendu ça. En effet, ça doit être très difficile de dire genre, OK, maintenant il est fini, j'arrête.
Ouais, ouais.
Parce que tu peux continuer, bien sûr, je comprends tout à fait.
Ouais, ouais.
Ça doit être très difficile. Surtout pour ton premier jeu.
Voilà, quand t'as pas eu le temps de te tromper. Donc, du coup, tu veux mettre tout. Plus de choses tu vas mettre, plus chance t'as de foirer tout le projet.
Narita Boy, c'est une merveille visuelle. La direction artistique est vraiment extrêmement marquante. Et c'est également une déclaration d'amour au style pixel art. Donc, j'imagine qu'on a sans doute un petit peu la même culture Moi, je suis né dans les années 70, je sais peut-être pareil pour toi, et on a été influencé par ces jeux avec des pixels apparents et avec ce style visuel qui est beaucoup repris en fait chez les indés, parce que les indés veulent rendre hommage à ces jeux qui les ont marqués étant plus jeunes, ces jeux qui potentiellement les ont poussés à venir travailler dans le jeu vidéo, à faire leur propre jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce style graphique pixel art? Et à quel moment tu as décidé d'aller dans cette direction-là, à moins que ce soit ton style à part entière? Mais j'imagine que tu dois avoir plus d'un style. Donc pourquoi ce style-là, pixel art?
Deux raisons qui se complémentent. La première, c'est l'esthétique de la nostalgie et ce que les indies nous ont fait. C'est beaucoup parce que générationnellement, on aime beaucoup ce style. On a vécu avec lui, on a beaucoup joué au pixel art, mais aussi par la simplicité, c'est-à-dire parce que c'est beaucoup plus facile faire des animations en pixel art que épique. Tu vois, Narita Boy, c'est 20 pixels. Et du coup, si ton perso, il fait 60 pixels et tu veux faire de la full animation, c'est-à-dire d'essayer de que chaque frame, tu le redessines à peu près. Parce que sinon, tu tombes, si tes persos sont plus grands, t'as besoin de beaucoup plus de champs pour animer. Et du coup, beaucoup de gens, ce qu'ils font, et c'est vraiment légitime, c'est d'utiliser les logiciels comme les spines, c'est-à-dire des logiciels. Donc, juste, tu mouves les morceaux de perso. Voilà. Et donc, à Narita Boy, on voulait que ça soit du pixel art, mais que ça soit, comme moi, je viens de l'animation. Je voulais que ça soit vraiment fluide et pas voir le truc, tu vois, le même bras bouger en haut et en bas. Tu vois, c'est parfois, tu vois, juste le perso, et tu te dis, ouais, c'est pas vraiment de l'animation, c'est juste, ils sont en train de bouger les pièces, de faire des translations de mouvements. Et moi, je voulais pas. J'adore les jeux comme Cuphead. Donc, tu vois l'animateur derrière.
Ah, oh, c'est fou. Et tu sais quoi? Cuphead, j'ai un t-shirt Cuphead là en ce moment sur moi.
Super. Et moi, je voulais faire.
Je suis fou de ce jeu.
Oui,
c'est
moi,
une merveille.
Moi aussi. J'arrive pas à tuer au démon, là, quand il pleure. J'arrive pas, je sais pas. Après, tu m'expliqueras comment faire. Mais je suis très accro à ce truc artisan. Et moi, je voulais un arrêtable, beaucoup d'artisans. Mais pour faire ça, il fallait vraiment aller dans la minime expression visuelle.
Ouais. Est-ce que tu as des graals, c'est-à-dire des références, des jeux pixel art dont la direction artistique t'ont marqué et t'impressionne encore aujourd'hui? Par exemple, pour moi, ce serait des jeux comme Metal Slug ou alors ce serait Street Fighter Third Strike. Mmh. Tu as ce genre de jeux qui visuellement sont tellement beaux, quoi. Ou un Monkey Island 2, par exemple, ce genre de jeu. Pour moi, c'est du pixel art au sommet. Tu vois, c'est difficile d'égaler ces jeux-là. Est-ce que toi, tu as également des références personnelles?
Moi, je me souviens, oui, j'en ai... Des jeux anciens, oui, je me souviens des Castlevania, des Metroid, Double Dragon, j'adorais, Ninja Gaiden, oui, c'était pas... Et même le Mario, le Super Mario World, de Super Nintendo.
Super
beau, le mélange de couleurs avec les limitations techniques du moment, c'est impeccable. Mais du coup, plus récemment aussi, il y a vraiment une nouvelle vague de gens qui mélangent le pixel art avec de nouveaux formes d'expression. T'as les mecs de Sword and Sorcery, ils font des trucs super beaux, Shovel Knight.
Est-ce que tous les dialogues du jeu de Narita Boy, c'est toi qui as tout écrit?
En espagnol.
Oui.
Ah. Ouais, okay. Ouais, ouais. C'est moi. Oui, moi, j'aime beaucoup écrire et du coup, c'était ma chance. Et aussi, je voulais faire un petit peu jouer, faire l'exercice d'essayer de trouver la façon de comment ils pouvaient parler pas seulement comme ils peuvent parler des logiciels et des programmes, sinon aussi comment ils pensent, tu vois. Et je voulais faire ce 360 degrés d'exploration. Mais les gens disent que peut-être ils parlent un peu trop.
Je trouve pas. C'est juste, pour moi, le tout début du jeu. Le tout début du jeu, t'es un petit peu assommé par le nombre d'infos qui soudainement te sont données. C'est juste le tout début. Ensuite, t'es juste heureux d'en apprendre un peu plus sur l'univers et d'aller chercher les clés pour mieux le comprendre.
Ah, super. Je me sens soulagé. Non, mais oui, c'est moi. J'ai beaucoup kiffé cette expérience. Vraiment, vraiment.
Est-ce que du coup, après avoir fait autant de travail sur la création de l'univers de Narita Boy, donc évidemment, à la fin du jeu, tu as une petite clé qui ouvre la possibilité d'une suite dans un genre différent, mais qui se passerait tout de même dans le même univers avec les mêmes personnages. Mais est-ce que tu as d'autres envies liées à Narita Boy? Bah, je sais pas, tu parlais par exemple du plaisir que tu as pris à écrire cette histoire et ces dialogues. Est-ce que tu pourrais un jour envisager d'écrire un roman ou alors des mini-histoires liées à cet univers? Est-ce que tu as envie de toujours faire des choses dans cet univers?
Oui, j'aimerais beaucoup. Mais du coup, je veux faire une petite pause parce que vraiment, ces 5 dernières années, je m'ai pris pas mal la tête. j'ai fait pas mal de crunch. Donc, je vais faire une petite pause, voir comment le jeu réactionne parmi l'audience et tout. Et on verra. Maintenant, nous sommes en train de faire un autre jeu complètement différent et pour essayer aussi de désintoxiquer de tout ça. Mais moi j'aimerais, il y a beaucoup d'histoires mais vraiment beaucoup. J'ai beaucoup d'idées de Narita Boy, suivre la généalogie des membres de la famille. J'ai une histoire très très belle aussi, émotive, parce que si je trouve pas l'émotion et tu vois le truc qui puisse connecter avec les gens, moi je préfère pas faire des jeux comme ça. Sinon je fais juste des jeux basés dans des mécaniques que aussi c'est assez convenient parfois pour pas. Je me suis senti un petit peu comme un acteur, tu vois, avec le méthode de Stanislavski de vivre dans le règne digital, c'est en français, c'est comment?
Oui.
Le règne digital, d'accord.
Ouais.
Et j'en ai marre parce que vraiment j'ai vécu là-dedans et je suis en train de sortir maintenant. Ça veut vraiment, je me suis mariné.
Tu parlais tout à l'heure d'émotion. Moi, il y a un moment qui m'a beaucoup marqué. Le Narita Boy est plein de références à la culture japonaise. Donc, tu parlais tout à l'heure du kanji naka, donc qui veut dire milieu. Moi, c'est une référence. On en a parlé un petit peu en échangeant par email à ce sujet-là. C'est une scène dans le jeu où tu vois, c'est en background, où tu vois un personnage qui crie au-dessus d'un puits. Mmh. En fait, moi, lorsque j'ai vu cette image, immédiatement, les larmes me sont montées aux yeux, parce que j'ai cru voir, en tout cas, une référence à une scène d'un film de Kurosawa qui s'appelle Barberousse, à Kaie. Et donc, du coup, c'est une scène qui m'avait bouleversé lorsque j'ai vu le film, émotionnellement extrêmement chargée, et dans un film qui est ultra marquant dans l'histoire de Kurosawa, puisque c'est le dernier film qu'il a fait avec Toshiro Mifune, qui était son acteur fétiche. Ils se sont un peu pris la tête sur le tournage, etc. Il y a plein d'histoires liées à ce film. Et malgré tout, c'est sans doute le meilleur rôle de Toshiro Mifune dans un film de Kurosawa. Et donc, quand j'ai vu cette scène-là, du coup, on a échangé un petit peu, on en a parlé. Mmh. Et toi, en fait, tu te rappelles de cette scène, mais tu savais plus dans quel film elle était.
C'est-à-dire, moi, j'ai comme une mémoire sélective. Et, par exemple, quand les gens parlent de jeux vidéo, je joue pas mal de choses.
Mais, ça m'arrive aussi.
Mais je retiens des images. Mon cerveau, il bosse comme ça. Moi, je me souviens d'un film japonais et je saurais jamais quel film c'est, mais je l'ai vu quand j'étais petit. Et c'était un couple qui se disait au revoir. C'était un film japonais en blanc et noir. Et se disait au revoir devant un tunnel. Le mec, il croisait le tunnel. Sa copine restait dans la rentrée du tunnel. Lui, il croisait le tunnel, mais il sortait pas le même lieu. Putain, ça vraiment, j'ai ça dans ma tête. Et du coup, voilà, cette référence que tu as vue. Donc, du coup, oui, j'avoue que peut-être, oui, dans un moment, j'ai eu ça parce qu'en fait, c'est en blanc et noir et tout, et il doit être là.
Ah, je trouve ça fascinant. Non, mais je comprends. Je trouve fascinant de voir un petit peu comment le cerveau fonctionne et comment des images s'impriment dans notre inconscient et restent là pendant des années et des années. Ensuite, tu peux les réutiliser sans même pouvoir complètement réattacher à l'origine, au point originel de ce souvenir. C'est assez incroyable. Et tu as également, moi, ce qui m'a en plus surpris, c'est que derrière, tu as sur cette séquence liée au puits, tu as toute une sorte de petit puzzle qui te mène à un boss caché. Et en fait, ce boss caché porte le nom du film dont est tirée cette séquence. Et donc, si. Bah ouais. Et donc, puisque le boss caché donc s'appelle Redbird, donc Barberousse. Et donc, du coup, c'est le titre du film.
Oh my God.
Donc, c'est quand même excellent de voir un petit peu comment le cerveau fonctionne.
Ah oui.
C'est-à-dire que lui-même, ton inconscient, a fait les connexions, mais pas consciemment.
Ah oui, mais c'est excellent, vraiment. Même, tu vois, l'autre jour, j'ai trouvé que la Keiba, où j'ai eu les idées de Narita Boy, parce que j'ai vu un chevau qui s'appelait Narita Brian, très fameux dans les années 90, des gens japonais, au Twitter, ils ont dit que cette Pays-Bas où je suis allé, je me souviens plus du nom, mais il a le congé de Naka aussi.
Ah.
Et du coup, je me suis dit, mais attends, peut-être, ça serait que j'ai vu ça. Et je me suis dit, mais je ne m'en souviens plus.
Ah, c'est génial.
Oui, c'est vraiment pas mal.
Autre chose que j'ai adoré dans le jeu, tu parlais tout à l'heure du travail passé sur les animations du jeu. Je trouve qu'une des parties du jeu où justement ce travail se manifeste est le plus évident, c'est pendant ces séquences de transformation, qui sont très nombreuses au final. Très souvent, Narita Boy va prendre l'apparence d'autre chose. D'où t'es venue cette idée? Et pourquoi autant de transformations? Ça a dû nécessiter un travail de fou. Moi, c'est des séquences que j'adore, qui sont parfois très courtes. T'as envie que ça soit plus long. Par exemple, lorsque tu te transformes, à un moment donné, en une espèce de cerf mécanique.
Ouais.
Et ce cerf est magnifique. Et donc, du coup, t'aurais envie de pouvoir te transformer quand tu veux. Mais c'est évidemment pas possible. Donc, du coup, d'où viennent ces transformations? Pourquoi autant de transformations?
Parce que je suis un transformiste. Non, mais je sais pas, parce que ça m'attire l'esthétique de. J'aime beaucoup quand un personnage dans un jeu il peut se transformer. Et du coup, j'avais beaucoup d'envie. Et dans un moment aussi, j'avais eu l'idée qu'il pouvait être un petit lapin, les lapins du jeu. En fait, dans un moment, tu pouvais être un petit lapin et aussi un petit peu faire des mécaniques. Mais du coup, le problème, c'est le temps, comme toujours.
Ouais, bien sûr.
Et on n'a pas pu donner plus de longueur à beaucoup de ces mécaniques. Mais du coup, le travail, il était fourni et on a décidé de l'implémenter.
Ah, vous avez bien fait, parce que c'est vraiment des séquences qui sont marquantes. Et même si elles sont courtes, tu prends un grand plaisir à les jouer. Mmh. Et on voit d'ailleurs, à ce moment-là, certaines références à He-Man. Donc en français, c'est le titre de la série, c'était Les Maîtres de l'Univers. Uh-huh. Donc, en effet, t'as ces transformations qui sont également présentes. Et j'ai adoré aussi cette séquence où tu as la possibilité de surfer sur l'eau dans le jeu. Et pour surfer, tu utilises une disquette. Et je trouve ça génial. C'est superbe. Les animations sont magnifiques. Le gameplay est très agréable et l'idée, elle est juste excellente. T'as beaucoup de références, justement, à ces... Pour moi, ce jeu, c'est aussi une fenêtre sur ta propre culture et tes propres influences, donc sur ta propre pop culture.
Voilà.
Et donc, du coup, ça me fait penser un petit peu où, de temps en temps, sur Reddit, par exemple, tu peux voir des visuels qui sont des peintures. Et c'est des peintures d'une chambre, de la chambre qu'on avait lorsqu'on était gamin. Et dans cette chambre, en fait, ces gens qui dessinent ces images mettent toutes leurs influences et tout ce qu'ils ont aimé étant gamin.
Ouais.
Et donc, du coup, tu vois des VHS, tu vois des disquettes, tu vois des jaquettes de jeux des années 90, tu vois évidemment des posters de films, tu vois plein de choses. Et donc, du coup, c'est vraiment un partage de ta propre pop culture. Et donc, pour moi, Narita Boy, c'est un petit peu toi également qui va partager ta propre pop culture. Et donc, toutes ces influences également, c'est un petit peu toutes ces œuvres disparates qui sont là, qui sont présentes et visibles dans le jeu.
Ouais, voilà. Oui. Et en fait, le jeu, moi, comme j'ai envisagé le projet, c'est en jouant. C'est-à-dire, comme Indy, j'ai voulu jouer. Et j'ai voulu encore jouer plus, mais on m'a dit, bon, écoute, il faut trouver un équilibre. Mais pour moi, c'était jouer. C'est-à-dire aussi, il fallait que j'envisage la réception du public et essayer, tu vois, de que le projet ne soit pas pour 10 personnes seulement.
Bien sûr.
Mais oui, c'est en jouant qu'on essaie de trouver des choses originales, en tout cas, et qui parlent de toi-même.
Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à Pixel Bento. Merci pour le temps consacré à cette interview. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que tu auras quand même l'opportunité de te reposer et de te recharger, entre guillemets, et également de pouvoir ingérer le maximum d'influence japonaise pour ton prochain projet. Et surtout, j'espère que tu pourras te reposer un petit peu.
Et donc, merci beaucoup pour ton invitation. C'était super cool. Merci.
Merci d'avoir écouté ce premier Pixel Bento hors série. On remercie Axel pour le montage. On le remercie surtout pour avoir sauvé cette interview et on s'excuse une nouvelle fois pour la qualité néanmoins moyenne du son. On remercie également Radio Kawa pour la production et on espère que le prochain hors série Pixel Bento se fera pour d'autres raisons que des raisons techniques. Désolé. Et on se retrouve avec le reste de l'équipe, soit avec Marc et Nicolas. Très bientôt. Ciao tout le monde.